Monsieur Raymond s'assoit chaque jour entre 17h et 17h45 sur le même banc du jardin botanique, sauf en plein hiver, quand le froid engourdit la terre, fige les temps, endolorit les jambes usées de Monsieur Raymond et gèle la serrure du portail d'entrée du parc en mode fermeture annuelle. Il fut un temps pourtant où le petit Raymond gambadait joyeusement dans le jardin botanique, sous le regard sévère du gardien qui ajustait d'une brève œillade et d'un frémissement de moustache les limites des enfantillages. Point de cris rieurs ni de folles parties de cache-cache, privilège de l'enfance, ce n'était pas le lieu ni même l'époque. Les tremblements des pavés et des murs, au passage des chats à grandeur réelle dans les rues de Strasbourg, ne manquait pas de couper court à toute insouciance naturelle. Au fil des saisons climatiques et politiques, l'enfant partageait ses jeux avec Oscar, Suzanne, Joseph, Sarah, Isaac. Mais aucun n'était resté. Et si peu avaient pu dire « au revoir ». Le seul, fidèle, imperturbable, était cet ami d'une présence silencieuse et immuable. À la peau lisse et pourpre, qui tendait toujours les bras. Prunus Cérula, c'était son nom écrit. Raymond s'asseyait toujours en face de lui, de l'autre côté de l'allée, sur le même banc de bois, rafraîchi parfois d'une nouvelle couche de peinture. Un livre ou un cahier entre les mains, il attendait la cloche du gardien qui annonçait la fermeture du parc à 17h45 ou 18h45 selon les saisons. Un soir, il observa un petit sourire énigmatique dissimulé sous les moustaches déjà blanchissantes du gardien. Il prit la direction de la sortie mais regagna discrètement un abri de jardin. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre, un peu poussiéreuse. Une armée d'outils y était rangée comme un régiment au défilé du 14 juillet. Strasbourg avait retrouvé depuis peu ses drapeaux bleu, blanc, rouge. Noir. Noir total. Brutal. Une masse s'abattit sur le crâne de Raymond. Souffle coupé, main ligotée. Quand il reprit ses esprits, il était à l'intérieur de la cabane. Une odeur de putréfaction lui soulevait le cœur. Sa bouche s'emplissait de bile fielleuse. Il ne pouvait la cracher. Un bâillon lui entravait la bouche. Un goût amer et âcre s'enfonça dans sa gorge. Il serra les dents à les faire grincer. Le goût s'intensifia. La jus gluant, dégoulinant le long de son cou, de sa poitrine, tombait en gouttes épaisses sur ses genoux. Ses jambes s'entrechoquaient. Une main noueuse et griffue montait du fond de ses entrailles. Elle ne pouvait sortir en cri sauvage. De l'intérieur, elle lui déchirait les muscles, lui brisait les côtes, perçait sa chair trop tendre. Un sang moussu et poisseux jaillit de sa poitrine. De ses narines, l'oxygène lui manquait. Il se débattait comme il pouvait. Mais son corps ne pouvait plus. Il était englué dans une matière verte et visqueuse. C'est bien cela. Verte et visqueuse. Suintante de bulles jaunâtres. Il la voyait distinctement désormais. Il le voyait aussi, ce pauvre corps meurtri et rabougri. Il s'en était détaché. Sauvé. Planant au-dessus de lui-même. Il bascula soudain dans un paysage froid et désertique, parsemé de quelques arbustes. L'un d'eux lui tendait les bras, des branches écorchées, de lambeaux entortillés. Il crut reconnaître son ami silencieux, Prunus. Prunus Cérula, celui qu'on appelait le cerisier du Tibet, mais qui ne donnait jamais de cerises, juste de petits fruits gorgés de silence. Le silence du désert de Gobi, sa terre d'origine. Le Tibet, il ne le connaissait pas.
J'imaginais seulement quand des visiteurs lisaient sa pancarte et la commentaient au jardin botanique de Strasbourg. Jardin. Jardautre. Bobor. Borborigme. Borganique. Borgasmique. Botanique. Jardin botanique, nous y sommes. Au canon, au cabanon, en cabane, en cavale, avale, ravale ta salive, si amère. Raymond était en train de mordre dans le baillon. Il recracha des morceaux de végétaux qui s'effilochaient, se coinçaient entre ses dents trop serrées. Ses yeux arrivaient désormais à découper les objets dans l'obscurité. Il distingua une scie suspendue au mur. En se rehaussant sur une caisse et en se frottant aux dents métalliques, il pouvait libérer ses mains attachées dans son dos. Ce qu'il fit. Son joug tomba à terre. Il le ramassa. C'était souple et dur, lisse et courbe. Ses doigts reconnaissaient bien cette texture, mais ses souvenirs n'y trouvaient pas d'image. Il chercha à tâtons la porte de sa prison en bois. Elle était curieusement entrebâillée. Il se glissa dans la fraîcheur nocturne du jardin et suivit le crissement des gravillons de l'allée. Une soudaine humidité de l'air lui rappela la proximité de l'étang. Il reconnut la silhouette de l'indigo bâtard, le catalpe du Japon, le chèvrefeuille du Caucase, la spirée de l'Oussouris, le jonc maritime, le forsythia d'Europe, le narcisse du Pointet. Ils étaient tous là dans l'ordre habituel. Il savait maintenant retrouver le portail à escalader. Il lui suffisait à la croisée des chemins de passer devant son banc. Il n'y était plus. Le ciel était sans lune, sans étoiles. En face du cerisier du Tibet, il resta là, debout, à prendre racine. Un bruissement. Un feuillage caressant. Il leva la tête et distingua la silhouette du banc qui était perché dans un arbre, pas très grand. Il laissa ses doigts le parcourir. L'écorce s'enroulait doucement en bandelettes autour de ses poignets, de ses bras, de son corps tout entier. Il se laissait faire à présent. Il devenait une momie vivante, emmaillotée dans des lambeaux d'arbres qui s'étaient détachés du tronc et des branches au fil du temps. Chair végétale de vie perdue, de parents disparus, d'amis oubliés. Raymond resta longtemps lové dans les lanières de bois écorchés, se laissant bercer par le chant de la sève, l'enveloppant ainsi jusqu'au petit jour.
Réveille en sursaut! Frappé de la voix bourrue de l'employé municipal, il détala sous les moustaches soigneusement épointées du gardien.
Le cerisier du Tibet avait repris sa place en face du banc de Raymond. De petites fleurs naissantes accueillaient les lueurs bleutées d'un matin nouveau.